CHME vous présente une entrevue exclusive réalisée par son service de nouvelles. Voici notre journaliste Anne-Sophie Paquet.
Bonjour, mesdames, messieurs. Voici un extrait d'une entrevue réalisée le 10 février dernier avec Dr. Richard Fascheoun, directeur de santé publique de la Côte-Nord. Dr. Fascheoun nous rappelle les protocoles d'isolement qui sont toujours en vigueur et évidemment les détails concernant la réalité sur la Côte-Nord. Il est aussi à noter que le 10 février dernier, la levée du port du masque obligatoire n'était pas dans les plans de la santé publique. Bonne écoute.
Bien, au moment où on se parle, le protocole demeure le même. C'est-à-dire que si dans une maisonnée, il y a quelqu'un qui a des symptômes, cette personne-là reste en isolement et va faire un test rapide. En même temps, les autres membres de la maisonnée vont rester en isolement. Si le test de la personne est revenu positif, alors cette personne-là, si elle est doublement vaccinée, sa durée d'isolement va être de 5 jours. Après ces 5 jours-là, s'il y a une amélioration de ses symptômes et qu'il n'y a pas de fièvre depuis au moins 24 heures, la personne va, durant les 5 autres jours qui suivront, porter le masque en continu, s'auto-isoler au travail et ne pas rendre visite aux grands-parents ni aux personnes vulnérables. Les membres de son domicile doivent rester en isolement pendant 5 jours. Et durant leur isolement, ils doivent surveiller leurs symptômes.
Donc, il n'y a pas de membres de famille. Si un enfant, exemple, a contracté la COVID, la santé publique n'est pas en train de dire qu'un autre membre de famille, même s'il y a un travail où il peut s'isoler au travail, il doit absolument s'isoler là, avec la famille le 5 jours, s'il est évidemment doublement vacciné. Si c'est une dose de vaccin, au moins, c'est 10 jours.
Oui, effectivement, là, à cause de la transmission du variant Omicron, quand il y a un cas dans une famille, les autres membres de la famille doivent rester en isolement pour 5 jours. Parfait. Le but, c'est de limiter la transmission du virus dans les autres milieux. Cependant, c'est important, lors de l'isolement, dans la mesure du possible, le cas doit s'isoler des autres membres de la famille. C'est-à-dire que si c'est un adulte, il restera dans sa chambre. Quand c'est un enfant, c'est un peu plus difficile parce qu'on doit jouer avec nos enfants. Dans ces conditions, on demande aux autres membres de la famille de porter un masque. Comme ça, ça va limiter le risque de transmission au sein de la famille.
Donc, ça, c'est beaucoup plus clair. Merci de cette réponse-là. Pour les travailleurs de la santé, les professionnels de la santé, il y a eu un certain temps où on disait que même s'ils étaient infectés, on voulait évidemment que nos services restent tels quels. Qu'est-ce qu'il y en est pour, pas les gens nécessairement du secteur public, puisqu'il y a des protocoles précis avec les employeurs, mais le secteur privé?
En fait, quand on prend les travailleurs de la santé, on va les diviser en 2 groupes. Un travailleur de la santé qui n'a pas un contact avec les usagers.
Okay.
Je peux travailler dans une pharmacie sans avoir de contact avec un usager. Dans ces conditions-là, ce travailleur, quand il est infecté, s'il est doublement vacciné, c'est 5 jours d'isolement.
Okay.
C'est un peu comme les gens de la communauté en général. 5 jours d'isolement plus 5 autres jours où il doit porter le masque en continu, respecter les consignes, la distanciation physique, s'auto-isoler au travail et éviter d'aller rendre visite à des personnes vulnérables. Cependant, si la personne a des contacts avec des usagers, donc qui pourraient être vulnérables, dans ces conditions, la durée d'isolement, c'est de 10 jours. Mais on l'ajuste en fonction, parce qu'on ne veut pas avoir des bris de service.
Oui.
Donc, ça, c'est réévalué en fonction de l'état de la personne. Si rendu au 7e jour, la personne n'a plus de symptômes, il y a amélioration clinique et que dans son milieu de travail, il y a un risque de ne pas pouvoir fournir les services, alors il y a des ajustements qui se font.
OK. Et est-ce que l'isolement débute lorsque le test rapide confirme la maladie ou c'est au début des symptômes?
C'est 2 situations. Pour une personne qui a des symptômes, la durée d'isolement commence au début des symptômes. Mais si c'est quelqu'un qui n'a pas du tout eu de symptômes, la durée d'isolement, on va le décompter à partir de la date où le test a été réalisé. Cependant, n'oublions pas, les gens sont contagieux 2 jours avant le début des symptômes mm-hmm. ou au moins 2 jours avant leur test positif. Donc, on tient compte de ça dans l'évaluation du risque.
Donc, ça, c'est bien clair. Vous avez évidemment vu, comme tout le monde, le calendrier de déconfinement. J'aimerais savoir votre position, votre opinion aussi face à ce calendrier-là et la réalité de notre système de santé sur la Côte-Nord. Est-ce que nous, sur la Côte-Nord, c'est correct?
Mais en fait, ces assouplissements sont nécessaires pour deux raisons. Les hospitalisations ont diminué. En même temps, les couvertures vaccinales ou les doses de rappel ont augmenté au Québec. Et vous savez, on regarde toujours, on cherche un équilibre entre c'est quoi les conséquences du virus sur le système de soins et les conséquences ou les impacts de nos mesures sur la population. Quand on parle de ces impacts sur la population, c'est l'isolement, la détresse psychologique. Donc, dès qu'on voit qu'il y a une amélioration au niveau des hôpitaux, mm-hmm. il faut qu'on ait des assouplissements pour permettre aux gens, parce qu'on ne veut pas que les gens développent de la détresse. C'est sûr que les mesures des dernières semaines étaient nécessaires pour éviter que des gens qui ont besoin de chirurgie, qui ont besoin de diagnostic de cancer ou d'un suivi particulier ne se retrouvent dans un système de délestage. Mais maintenant, ça va bien dans les hôpitaux, ce qui nous amène à dire que sur la Côte-Nord, ces mesures, nous, on les accueille favorablement. Ça ne veut pas dire que la situation est parfaite, non. La situation demeure fragile et on demande à chacun, à chaque résident, d'apprendre à vivre avec le virus. On doit vraiment se préparer pour cette vision-là. Et la meilleure option pour se préparer à ça, c'est chaque fois, il faut se poser une question. Est-ce que je suis prêt à ce que mon épisode de COVID se passe sans risque d'hospitalisation ou de maladie sévère? C'est la première des questions. Et la réponse à cette question, c'est si je suis âgé de 18 ans et plus et que j'ai déjà ma dose de rappel, ça veut dire que j'ai une bonne protection contre les formes graves et les hospitalisations. Une dose de rappel, ce que ça apporte, c'est une protection de 90 % à peu près contre ces formes graves et les hospitalisations. Donc, c'est ça qui est important. Une fois que je peux dire, OK, même si je fais la COVID, le risque d'hospitalisation est diminué, là, je vais penser à autre chose, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais pour diminuer mon risque de contracter la COVID. Et dans ces éléments-là, n'oublions pas le masque. Mm-hmm. Porter le masque, ça va diminuer mon risque d'exposition et en même temps, ça diminue mon risque de transmission. Deuxième élément, la distanciation physique et le fait de réduire la participation à des rassemblements. Vous savez, plus il y a des gens dans un endroit qui est étroit, plus il y a un risque de transmission. Donc, si je ne participe pas à trop de rassemblements, ça va diminuer mon risque. Et là, ça va me permettre de vivre avec le virus. La vie avec le virus, c'est aussi utiliser les outils dont nous disposons. Aujourd'hui, quand les gens sont symptomatiques, on leur demande, restez chez vous, utilisez un test rapide à domicile. Donc, le dépistage et l'isolement, ça va faire partie de la solution. Et on a besoin aussi que nos jeunes, nos enfants aillent à l'école. Ça fait partie des éléments clés pour leur développement global. Donc, c'est tout ça qui fait que, oui, il y a les assouplissements, oui, la situation est fragile, mais on a des moyens. Je sais que la population a utilisé déjà tous ces moyens-là durant les 23 derniers mois et on demande de continuer par les utiliser.
Mm-hmm. Et évidemment, la couverture vaccinale, en fait, la vaccination de rappel devient vraiment primordiale. Qu'est-ce qu'il y en a de la couverture vaccinale chez nous? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que les jeunes à partir de 5 ans sont vaccinés un peu plus que ce qu'il faudrait justement avec l'ouverture des écoles?
Bien, je vous dirais, globalement, sur la Côte-Nord, je vais prendre des couvertures vaccinales, je prends les 5-11 ans. Quand je prends les 5-11 ans, 63 % sur la Côte-Nord ont reçu une première dose. 28 % ont reçu une deuxième dose. Mais quand je vais en Haute-Côte-Nord, on parle de 7 jeunes sur 10 âgés de 5 à 11 ans qui ont reçu leur première dose et 44 % ont reçu leur deuxième dose. C'est une bonne couverture. Mm-hmm. On aimerait avoir une couverture autour de 80 %, mais on travaille pour ça. On demande aux parents, s'il vous plaît, faites vacciner vos jeunes. Ça va nous permettre d'apprendre à vivre avec le virus. Si on regarde les 12-17 ans, globalement, en Haute-Côte-Nord, pour la deuxième dose, on est autour de 90 %. C'est bien. Mm-hmm. On aimerait avoir un score un peu plus élevé et on remercie les parents et les jeunes pour les efforts qui ont été accomplis pour atteindre cette couverture-là. Maintenant, pour ce qui est de la dose de rappel, quand on regarde chez les personnes de 18 ans et plus qui ont accès à cette dose-là, en Haute-Côte-Nord, on est à 76 %. On aimerait vraiment avoir une couverture de près de 85 à 90 % très rapidement. Le but, comme je l'ai mentionné, quand une personne de 18 ans et plus a sa dose de rappel, c'est 70 % de protection contre toutes les infections. Et c'est 90 % de protection contre les hospitalisations. C'est-à-dire que cette dose-là, ça nous permet de protéger le système de soins, d'éviter des mesures contraignantes et aussi, ça nous permet de vivre avec le virus.
Mm-hmm. Donc, la troisième dose, elle est primordiale. C'est parfait d'avoir une première dose, une deuxième, mais la troisième, les gens de 5 ans et plus doivent absolument aller la chercher.
Pour la troisième dose actuellement, elle est offerte seulement pour les 18 ans et plus.
18 ans et plus, OK.
Les 5 à 17 ans, avec une deuxième dose, à date, les données prouvent qu'on a une bonne couverture vaccinale avec deux doses chez les 5 à 17 ans. Mais on suit la littérature, on suit les données. S'il y a des ajustements, ça va être apporté.
Est-ce que, dans le fond, pour les gens qui ont contracté la maladie, pour la plupart, on parle du variant Omicron. Les gens qui ont eu, exemple, deux doses plus Omicron, ne sont pas considérés comme, sont considérés comme immunisés, mais ils doivent absolument aller chercher quand même leur dose de rappel.
Oui, il faut que ces gens-là aillent chercher leur dose de rappel parce que le système actuel, vous savez, il y a des gens qui ont eu des tests PCR. Il y a d'autres qui ont eu des tests rapides et d'autres qui n'ont même pas eu de tests, mais qui ont eu des symptômes qui se sont isolés. Donc, ça devient difficile. Ce qu'on demande aux gens, si vous avez fait la maladie, attendez au moins 8 semaines après la maladie, sinon 12 semaines pour avoir votre dose de rappel.
Mm-hmm. Donc, c'est évidemment, là, il y a eu un certain temps où on entendait qu'avoir eu Omicron devenait comme une troisième dose de rappel, mais il faut quand même aller la chercher 8 semaines après.
Oui, 8 à 12 semaines après.